Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut, c'est le ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, une nouvelle fois en séance spéciale Club de l'Étoile en public pour une nouvelle séance du samedi soir avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Thomas.
Et ce soir, on va parler de Scott Pilgrim, d'Edgar Wright, c'est le ciné, Extra Ball spécial Scott Pilgrim, et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Et pourtant, tout aurait pu si bien se passer. Rafik, ça partait super bien. Edgar Wright, adaptation d'une BD devenue culte depuis quelques années déjà. Ça aurait dû être un carton mondial et ça ne l'a pas été.
C'était difficile à vendre. Ouais. Ça restait difficile. La BD avait effectivement bien fonctionné auprès d'un public ciblé. Le problème, c'est que c'était un film qui s'adressait à un public qui, déjà à l'époque, avait pris l'habitude de ne plus trop aller au cinéma. Et Edgar Wright est loin d'être une superstar sur le continent américain. Ouais. C'est un réalisateur respecté par les Anglais, pour une raison d'ailleurs que nous, Français, connaissons assez peu, puisque Edgar Wright, en fait, il est surtout connu pour la série Spaced, qu'il avait fait à la fin des années 90, sur laquelle il y avait eu 2 saisons, et qui était un sitcom comme on n'en voit jamais, c'est-à-dire un sitcom mis en scène, et sacrément mis en scène d'ailleurs, bourré de références qui étaient totalement en accord avec, qui parlait profondément aux jeunes de cette époque, à ceux qui avaient 20-25 ans, une espèce d'agrégat, de première tentative d'agrégat de toute cette culture pop en fait. Sous forme de sitcom. C'est la matrice de la carrière d'Edgar Wright. D'ailleurs, Shaun of the Dead, le premier long métrage qu'il a fait, est dans la continuité directe de Space, puisque il reprend des personnages qui auraient pu être dans la série. C'est sur cette série qui s'est fait des amitiés durables avec Nick Frost et Simon Pegg. Et donc, il était bien identifié, en tout cas chez les Anglais, que Edgar Wright portait avec lui un certain état d'esprit qui est celui de ceux qui ont eu 20 ans dans les années 90, ouais. En fait, hein, avec tout ce que ça porte, charrie culturellement. Et c'est d'une certaine façon ce qui le mène sur un projet comme Scott Pilgrim, puisque au départ, quand les droits ont été vendus par l'éditeur, les droits d'adaptation, l'auteur Brian Lee O'Malley s'attendait à rien. Pour lui, de toute façon, une BD comme ça allait être adaptée n'importe comment. Ouais. Ils allaient mettre un comique quelconque et essayer de mettre 2-3 gags à base de petite prout. Ils s'attendaient vraiment pas à ce que ça tombe entre les mains de quelqu'un qui comprenne le matériau qu'il avait, et notamment, ce qui était donc déjà dans la BD, cette tentative de marier des genres qui n'étaient pas forcément mariables.
Et des cultures,
voilà, qu'on oppose souvent, notamment donc, évidemment la culture japonaise et anglo-saxonne. Et il a été ravi, évidemment, il a participé à la coécriture. Sauf que comme le projet a été assez long à être développé, ce qui s'est passé, c'est qu'en participant à l'écriture, il trouvait qu'il y avait des idées tellement chouettes que lui, il les mettait dans sa BD, en fait. Donc, il y a des répliques de la BD qui sont pas à l'épisode où ça devrait se produire. Mais bon, ça veut dire à quel point il avait validé ce projet-là. Le budget au départ du film, bon, déjà le film s'est monté grosso modo parce que Michael Cera. Là-dessus, ça apporte. C'est pas du tout Edgar Wright qui était bankable à l'époque. C'est vraiment une fois que Cera a dit oui, c'était au lendemain des succès de surprise de Juno notamment. Il était extrêmement bankable, donc on pouvait monter un budget à peu près de 60-80 millions sur son nom. Et c'est le film a été budgété plus que ça, il était à presque 100 millions, mais c'était pour des raisons qu'on n'était pas censé forcément voir à l'écran, en fait, parce que bon, il faut savoir que les studios vivent aussi sur la budgétisation de leur film, hein. Ça c'est le grand sujet tabou. Souvent on annonce un budget de 100 millions, en réalité l'équipe technique elle en a vu que 60, quoi.
Ouais.
Mais tous les cadres du studio, eux, par contre, ont pris leur réunion en limousine, quoi. Ceci dit, donc c'était quand même un projet qui, pour Universal, bon, Serra étant entre guillemets la nouvelle idole des jeunes, on allait faire un film qui était tiré d'une BD pour les jeunes, donc le film allait être jeune. On a pris un réalisateur jeune qui a l'air de bien plaire aux jeunes anglais. Enfin, voilà, ils se disaient ça devrait trouver sa voie. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, évidemment, c'était le ton et la forme, surtout, qu'il allait donner, parce que lui avait vraiment l'intention d'adapter la BD, c'est-à-dire de traduire cinématographiquement ce qui était déjà à l'œuvre, et aussi de le nourrir de sa propre thématique personnelle, en fait, quoi. Je pense qu'il y a plus de résidus de la culture 90s dans le film qu'il n'y en a dans la bande dessinée. Ouais. La BD n'a pas forcément le réflexe de te mettre le générique de Seinfeld lorsqu'on zoome sur une porte, tu vois, que des choses qui ne peuvent être comprises que par des gens qui ont grandi à cette époque-là, pour ne pas parler du thème de Zelda qu'on peut entendre lorsqu'on se balade dans un décor de rêve ou de la barre de pipi qui s'affiche en haut de l'écran, quoi. Donc toutes ces petites idées qui vont piocher allègrement dans le jeu vidéo, dans le manga, dans en gros tout ce qui nous a nourris, c'était quelque chose qui était déjà, encore une fois, dans Space, qui est vraiment ce qui répond le plus à Scott Pilgrim, en fait. Cette idée d'Edgar Wright de le nourrir d'un cinéma indépendant qui est rarement exploité par le blockbuster. Parce que, malgré tout, vu son budget, c'est quand même un film qu'elle est cherché du côté du blockbuster, oui, avec ses séquences d'action, effets spéciaux, etc. Mais en même temps, la référence à la base, c'est Ghost World, qui est un film qui est en dehors du public de festival et pas super connu, tu vois. Alors, il y a une autre référence plus pop qui a vraiment guidé Edgar Wright dans la mise en scène du film et qu'il a régulièrement balancé, notamment à son scénariste. C'est le film de Mario Bava. Et là, j'ai un trou, oh, mec. Mince. Oh, mince. Son film le plus pop, tiré d'un Fumetti, d'une BD, donc. Mais c'est fou, ça. Merci, on a un spectateur qui a gagné le jeu des 1000 francs.
Tout à fait.
Ouf, il me sauve. Donc, danger diabolique. tu peux garder ça au montage, hein, ouais, que je me tape sûr la honte sur les réseaux sociaux. Donc voilà, la référence, c'était effectivement Danger Diabolique, parce que c'est le genre de film qui d'abord était déjà une adaptation de BD et surtout qui osait tout à son époque, qui n'avait absolument pas peur du ridicule dans les effets qu'il allait mettre, parce que de toute façon, c'était du comic book, il fallait retrouver cet esprit-là. Donc il s'est dit, ok, moi je vais retrouver plus que l'esprit, je vais même le nourrir de ce qu'il n'y avait pas dans la BD. Et on se retrouve au bout du compte avec un film qui est un film somme, en fait, un film de synthèse, donc pas seulement entre le cinéma indépendant et le blockbuster, mais un film de synthèse aussi entre tous les médias visuels à une époque donnée. Donc c'est ce qui à terme va le nourrir et va en faire le film culte qui sera, mais évidemment ça sera pas le cas à sa sortie, parce que y a des gens qui sont censés vendre ces films-là, et ces gens-là vont pas savoir le vendre, en fait. Ils vont le vendre exclusivement sous l'angle de la comédie romantique, ce qui est pas forcément une mauvaise idée, mais qui est pas complet. Ouais. Et surtout, l'échec américain du film va le condamner sur toute la chaîne, en fait. Moi, je me souviens que c'était en 2010, donc j'avais fait une émission où on avait invité le directeur marketing d'Universal pour parler de la sortie des productions, des comédies US en France, oui, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi les films étaient aussi mal distribués, etc. Émission très intéressante qui s'appelait Dans le film, sur le site Arrêt sur Image, parce que le type était vraiment sans langue de bois. Donc, il nous a vraiment tout balancé, oui, il reconnaissait tous les torts et tout, il n'y a aucun problème. Et lorsque vient le sujet de Scott Pilgrim, je crois que le film n'était pas encore sorti aux États-Unis. Il me dit, mais Scott Pilgrim, c'est mort. Mais on était à 5 mois de la sortie française, tu vois. Et le mec m'annonce d'emblée, c'est même pas la peine.
Ouais, tu vois. Il partait complètement pas.
Voilà. Ouais. Déjà, s'il avait marché aux États-Unis, il aurait été d'une certaine façon sacrifié sur le territoire français. Alors là, avec le bide américain, le film n'existe pas, quoi, tu vois. Donc il y a eu zéro effort qui ont été faits. Il était disponible en DVD américain, donc déjà sur les réseaux d'échange de fichiers avant même avant même sa sortie en salle, il y avait absolument aucun effort. C'est vraiment un film sacrifié. Et on peut se demander raisonnablement, même s'ils avaient fait des efforts pour le sortir correctement en France, est-ce qu'il aurait pu marcher ? Hélas, je crois pas. Je crois pas parce que je crois vraiment que le public ciblé est un public essentiellement habitué à consommer ce genre de film chez lui et ne sort plus que pour des marveleries d'une certaine façon, quoi. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. On peut pas obliger les gens avec le flingue sur la tempe à les emmener en salle.
Est-ce que ça explique selon toi son succès après, on va dire en VOD, sa vie d'après une fois la sortie vidéo, quoi.
Évidemment. D'abord parce que c'est un film qui se revoit, vu que évidemment de première vision tu zappes 50 000 détails, quoi. Donc ça va même trop vite pour certains à la première vision. Ça peut être un peu bourratif quelque part, mais ça devient un plaisir dans le revisionnage, et aussi parce qu'il n'y a pas de concurrence, quoi, tout simplement. Faire des films comme ça, c'est super difficile. Et il y a une chose intéressante d'ailleurs qui s'est produite au niveau promo, c'est que il y avait un numéro spécial du magazine Empire qui avait Steven Spielberg pour co-rédacteur en chef. Et Spielberg avait décidé de faire un numéro qui essayait de parler du cinéma de demain. Et les films qui étaient... C'était la première fois qu'on a vu des photos de plateau de Avatar, de James Cameron. Donc tout le monde avait acheté... Enfin, tous ceux qui s'intéressent au projet avaient acheté le magazine pour ça. On avait une interview de Guillermo del Toro qui, à l'époque, devait faire Le Hobbit. On avait aussi des images de plateau de Tintin avec Spielberg. Et... Scott Pilgrim versus The World. C'est-à-dire qu'il était mis au même niveau que ces films-là. Voilà. Qui sont tous des films d'auteur, au sens porté par un réalisateur à une identité très forte, et qui tentent tous, techniquement, de faire quelque chose de totalement inédit. Et même si le résultat... Parce que Scott Pilgrim est un film qui joue sur les terres du cinéma de festival, du cinéma indépendant, etc., on a tendance à lui retirer un peu cette validité, que c'est aussi, au niveau blockbuster, une barre très très haute, en fait. Les séquences de combat, il y a zéro Marvel qui te propose des séquences de combat aussi bien chorégraphiées. Bien sûr, avec Chris Evans notamment, ou Brandon Routh qui a fini par jouer Superman. Mais voilà, donc cette ambition délirante du film n'a même pas été notifiée à l'époque de sa sortie. Personne n'a vu que si on avait dit aux gens: ça, c'est limite, c'est le Spider-Man de Rémy, quoi, si tu veux, avec une comédie romantique en plus. Peut-être que ça aurait fait sortir ce public-là de chez lui. Il a fait sa réputation parce que les gens ont pu le voir et donc ont pu apprécier à quel point c'était un spectacle total. Et en termes de cinéma hybride, il n'y a que deux films qui ont vraiment tenté cette hybridation ces 15 dernières années, je trouve. C'est le Speed Racer des Sœurs Wachowski et Scott Pilgrim. C'est-à-dire vraiment qu'ils se sont dit, celui qui est habitué à vraiment consommer de la fiction, on arrivait à une telle science du découpage que maintenant il est temps de passer à la vitesse supérieure et de cumuler les références parce qu'il les comprend intuitivement. C'est aussi ce qui va garantir une pérennité à venir. Donc, Scott Pilgrim est un... C'est le meilleur film de super-héros de ces 15 dernières années, tout simplement. Voilà.
Le film de super-héros que vous n'avez encore jamais vu. Je propose qu'on le regarde. Du coup, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Rafik.
Merci au public, merci au Club de l'Étoile. Binge.audio pour toutes les infos utiles et on vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.